Chers amis de l'écologie, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau, et de l'émission Un pas de côté sur Graphite 94.9, bonjour. Il y a quelques années de cela, je vous avais parlé d'un projet de création d'une décharge dans le coin de l'Oise où j'habite et de la lutte que notre collectif menait pour contrer ce projet. La semaine passée, j'évoquais le problème que posent les grands projets inutiles et la consommation de terres agricoles dont, trop souvent, ils sont la cause. J'aimerais donc revenir sur cette affaire de décharge, dont les implications fort nombreuses nécessiteraient bien plus qu'une brève chronique pour être entièrement décrite. Aussi, afin d'éviter de lasser l'auditeur, je me contenterai d'en rappeler les traits principaux. Depuis une trentaine d'années existe à Moulins-sous-Touvent une décharge d'ordures ménagères et autres déchets d'entreprise gérée par l'entreprise Gurdebeck. Située loin de la partie agglomérée du village, qui compte quelque 230 habitants, à l'abri dans un vallon protégé des vents, pour ses habitants, elle est en revanche très proche des communes de Carlepont, Tracy-le-Val et Tracy-le-Mont. Pendant de longues années, ceux-ci ont eu à subir trafic intense de camions et odeurs nauséabondes, et de nombreuses carences ont été relevées à l'encontre de l'exploitant, de nombreuses plaintes déposées. En 2004, le site arrive à saturation. L'exploitant, qui souhaite conserver les avantages que constituent les installations fixes de traitement, centres de transit et unités de compostage, cherche à proximité un lieu adéquat pour la mise en place d'une extension. À une distance d'environ 800 mètres, plus près cette fois de Tracy-le-Mont, il trouve un vallon qu'il envisage de barrer par une digue d'une quinzaine de mètres de haut afin de créer artificiellement un nouveau trou à ordures. Il sollicite donc l'autorisation de l'administration. À la surprise générale et en premier lieu à celle du demandeur lui-même, le préfet de l'Oise refuse l'autorisation en juin 2006. Bien évidemment, l'entreprise demanderesse entreprend immédiatement d'attaquer ledit arrêté devant le tribunal administratif. Après une longue procédure, l'administration sera désavouée par la justice. Mais le 15 juillet 2009, le préfet prend un nouvel arrêté. Nouveau coup de théâtre et joie des opposants, le préfet refuse à nouveau l'autorisation, s'appuyant sur la présence à proximité du lieu prévu pour la décharge, de la butte des Oives, monument évoquant la Grande Guerre et d'une avifaune remarquable qui a fait classer la forêt de l'Aigue, dans laquelle est intégré le site en question, en zone Natura 2000. Ces arguments ne tiendront pas plus devant le tribunal administratif. Et le 18 octobre 2011, le préfet se trouve à nouveau mis en défaut. L'administration, tenue cette fois d'autoriser le projet, s'en acquitte en décembre 2011. À partir de cette date, les travaux peuvent commencer, car les recours que nous intentons, dès ce moment, ne sont pas suspensifs. Aujourd'hui, nous attendons toujours la décision de la cour d'appel, alors que les premiers camions ont commencé à déverser leurs ordures sur le site. Ce site, et c'est ici que je rejoins mes propos de la semaine passée, couvre une surface d'environ 21 hectares. Il y a encore quelques années, c'était un vallon superbe, boisé pour partie, cultivé pour une autre. Oiseaux, papillons, chevreuils fréquentaient ses limites de forêt, formant un riche biotope et un spectacle fleuri des plus séduisants. Aujourd'hui, fleurs et faunes, arbres et cultures ont disparu sous le béton, le goudron et les ordures. Comment peut-il être possible, au XXIe siècle, de laisser disparaître un tel patrimoine ? Mais, me direz-vous, les ordures, il faut bien les mettre quelque part. Peut-être. Peut-être, mais, vous répondrai-je, ne peut-on pas faire mieux que de les balancer dans un trou et de remettre une couche de terre comme on fait pour la poussière que l'on cache sous un tapis ? En fait, Ce projet ne sert guère que les intérêts privés d'un industriel et non le bien public. En raison de la montée en puissance du tri sélectif, que nous pratiquons tous plus ou moins tous les jours, et de la présence d'un incinérateur dans l'ouest du département, un nombre de plus en plus restreint de collectivités publiques recourent à l'enfouissement des déchets ménagers. Le marché visé de nos jours, c'est plutôt celui des entreprises, en particulier dans le domaine du bâtiment, qui n'ont pas encore pris le virage de la réduction programmée du volume de déchets et recourent encore massivement à l'enfouissement. Savez-vous qu'en 2010, la production de déchets en France a représenté environ 350 millions de tonnes d'ordures. Mais sur ces 350 millions de tonnes, 260, c'est-à-dire les deux tiers, 260 donc millions de tonnes proviennent de déchets de construction, alors que les déchets ménagers eux-mêmes représentent environ 29 millions, soit pratiquement le dixième des déchets de construction. Pourtant, cette situation ne durera sans doute pas encore bien longtemps. Logique économique, écologique et politique européenne vont maintenant dans un sens contraire à celui de la destruction. Et le projet de création d'un centre de tri de déchets industriels à Clairoy, dans les anciens établissements Uniroyal, est à ce titre révélateur d'une tendance de fond. Et pourtant, l'entreprise Gurdebeck, elle, ne désarme pas. Elle vient d'entreprendre des démarches judiciaires en vue d'obtenir le déclassement de la fameuse butte des Oeuvres que j'évoquais plus haut, afin d'avoir les mains libres pour se lancer vraisemblablement dans un projet de décharge numéro 3. Il s'agit donc, ni plus ni moins, en pleine période de commémoration de la guerre de 14-18, de dénier à ce site de mémoire le rôle qu'il occupe dans l'esprit des familles d'anciens combattants depuis des dizaines d'années. Faut-il enterrer une seconde fois les poilus tombés lors de la bataille de Quennevières ? Faut-il ignorer la terrible guerre des mines, les gaz de combat, les assauts sanglants, les bombardements ? La butte est le seul monument aux alentours qui rappelle ces dramatiques événements. C'est un lieu de recueillement à haute valeur symbolique. La faire disparaître n'est-il pas un acte tenant du négationnisme le plus sinistre ? Mais ne nous laisserons pas faire. Bien que nous soyons loin de disposer des énormes moyens financiers de notre opposant, nous mettrons en œuvre tous les moyens légaux, toute notre force, toutes nos convictions, pour barrer la route à ce nouveau projet, lequel, en plus de souiller un lieu de mémoire, mettrait en danger encore un peu plus l'avenir de nos nappes phréatiques. Voici, en quelques phrases, résumée une longue lutte de plus de 10 années, exemplaire à plus d'un titre au sens premier du terme. Car des combats comme ceux-ci, ils s'en mènent de plus en plus partout en France. En dépit de résultats parfois décevants, il n'est point lieu de désespérer. En effet, d'abord parce que le choc du pot de terre contre le pot de fer se conclut parfois par la victoire du premier. Ensuite et surtout parce que cette forte opposition incite les pouvoirs publics à faire évoluer la législation dans un sens de plus en plus rigoureux vis-à-vis des techniques destructives et dans le même temps favorable aux mesures de prévention. L'avenir n'est pas encore radieux, mais il est un peu moins couvert. Construisons-le ensemble. À bientôt sur Graphite, avec un pas de côté.